Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus dans ce lieu où nous nous rassemblons, où nous voulons prendre le temps non seulement d'adorer Dieu comme nous l'avons fait, mais aussi de prendre le temps d'écouter sa parole, d'écouter sa voix, d'écouter ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Nous pouvons remercier le Seigneur parce que ça fait un mois que nous avons bien repris nos activités en présentiel. Pour ceux qui étaient au courant, vous souvenez que la fin de l'année dernière a été un peu difficile, mais depuis un mois, nous avons bel et bien repris. Et nous pouvons en remercier le Seigneur pour ça. Et je pense que les cultes sur Zoom ne nous manquent pas. N'est-ce pas ? Depuis le début de l'année, nous étudions la lettre de Paul aux Éphésiens, une épître où il est question du plan de Dieu, de Christ et de l'Église. Ce sont ces thèmes-là que nous retrouvons dans cette épître que Paul adresse aux Éphésiens. Et après avoir évoqué les bénédictions que Dieu a déversées dans sa grâce sur celles et ceux qui sont en Christ, après avoir mentionné la grâce de Dieu envers juifs et non-juifs, après avoir parlé de la réconciliation les uns avec les autres, et la réconciliation de tous avec Dieu, eh bien, Paul est sur le point de prier au début du chapitre 3. Mais en fait, au lieu de poursuivre, et c'est ce que nous allons voir dans un instant, au lieu de poursuivre, inspiré par l'Esprit de Dieu, il ouvre une sorte de parenthèse. Il ne va pas prier tout de suite, mais il va dire autre chose qui lui vient à ce moment-là en tête. Et c'est vrai qu'en lisant les deux premiers chapitres, nous avions presque oublié la situation de l'apôtre Paul à ce moment-là. Quelle était donc sa situation ? Eh bien, il le dit au début de notre texte, il est en prison. Il est en prison à cause de l'Évangile. Il est en prison à cause de sa foi en Jésus-Christ, à cause de son ministère auprès des non-juifs. Et à la fin de notre texte, au verset 13, il demande à ses destinataires de ne pas être découragés à cause de sa situation. Il est en prison, mais c'est pour la bonne cause. Donc, les Éphésiens ou les destinataires de cette lettre n'ont pas à se décourager. Ils peuvent continuer à marcher avec le Seigneur dans la foi. Et entre les deux, eh bien, nous avons les versets 2 à 12, et c'est ce qui va expliquer pourquoi les Éphésiens, les destinataires de cette lettre, n'ont pas à être découragés. Et je vous propose de suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 3, des versets 1 à 13. Et je lirai dans la version Semeur. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret, qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant, par le Saint-Esprit, à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Paul revient sur son ministère si particulier que le Seigneur lui a confié dans sa grâce. Et paradoxalement, alors qu'il parle de son ministère, Paul semble orienter notre regard non pas sur lui, sur sa personne, ni sur ce qu'il a fait, mais davantage sur ce que Dieu a fait, davantage sur ce que Dieu avait préparé d'avance. Et en effet, si Paul a pu avoir un tel ministère, c'est parce que Dieu l'avait choisi. Et si Dieu l'a choisi, c'est parce que Dieu avait un plan fixé de toute éternité. Et si nous devons nous émerveiller devant une vérité cet après-midi qui nous concerne encore aujourd'hui, eh bien voici cette vérité. C'est que dans son plan éternel, Dieu a inclus l'Église. Dans son plan éternel, conçu de toute éternité, Dieu a inclus l'Église. Et comment le savons-nous? Eh bien parce que Dieu s'est révélé en faisant connaître d'abord le secret de son plan. Dieu s'est révélé en faisant connaître le secret de son plan. J'aime les histoires qui comportent une enquête, comme celle que nous trouvons dans les romans policiers ou dans les séries policières. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment les romans policiers ou les séries policières ? Oui, quelques personnes. C'est pas une majorité, hein. J'aime ce côté où l'auteur glisse quelques indices au fil des pages de son roman. Bien sûr, il ne doit pas tout dévoiler, sinon ça gâche la surprise. Pour qu'à la fin, lorsque tout est révélé, lorsque nous connaissons le véritable coupable, eh bien, nous puissions nous dire, mais bien sûr, comment ne l'avais-je pas vu? Et il faut avoir un certain talent pour parvenir à faire cela. Il faut avoir un certain talent pour ménager du suspense, pour ne pas tout dévoiler d'un coup. Mais une telle ingéniosité ne vaut pas la sagesse infiniment supérieure de notre Dieu. Dieu qui conduit de manière intentionnelle les événements selon le plan qu'il a établi. Dieu qui révèle dans sa parole des indices au fil de l'Ancien Testament. Et pourtant, rien n'est encore suffisamment clair jusqu'à ce que Jésus entre en scène. Vous avez déjà remarqué ça en lisant la Bible ? Dieu glisse des indices tout au long de l'Ancien Testament, mais rien n'est aussi clair que lorsque Jésus entre en scène. Et à partir de ce moment-là, le plan de Dieu commence à devenir beaucoup plus clair. Nous saisissons alors la raison pour laquelle Jésus est venu. La raison pour laquelle Jésus est mort et ressuscité. La raison pour laquelle l'Église existe. Quand Paul, dans notre texte, parle du secret du plan de Dieu, il parle de ça, de ce que je viens d'évoquer. Certaines traductions plus anciennes ont rendu le mot grec par « mystère », ce qui est une correcte traduction. Le problème, c'est qu'en français, ça prête confusion aujourd'hui. Lorsque nous parlons de mystère, en général, on parle de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ou qu'on a du mal à expliquer. Donc c'est pour ça que, notamment dans la version du Semeur, on va choisir une expression qui soit un peu plus claire, et donc ils l'ont rendu par le secret du plan de Dieu. Or, ce mot qui est employé par Paul, donc le mot mystère, ne veut pas dire quelque chose d'inexplicable. Au contraire, cela désigne ce qui était voilé pendant un temps pour les générations avant Jésus-Christ et qui est devenu tout à fait clair depuis la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mystère désigne donc ce qui était voilé pendant un temps et qui est devenu tout à fait clair lorsque Jésus est venu. Et tout cela, Paul, bien sûr, ne l'a pas compris de lui-même, même si ça devait être quelqu'un d'intelligent, mais il ne l'a pas compris de lui-même. Il était nécessaire que Dieu le lui révèle. Et c'est ce que nous voyons au verset 3. « Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, mais il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. » C'est à Paul ainsi qu'aux autres apôtres que Dieu a choisi de révéler le secret de son plan. Non seulement les apôtres ont reçu par le Saint-Esprit l'intelligence de comprendre ce mystère, mais à nous aussi, Dieu nous l'a fait comprendre par les écrits du Nouveau Testament. Ce que les apôtres et certains proches ont laissé. Oui, à nous aussi, Dieu nous a révélé, nous a fait comprendre le secret de son plan. Nous comprenons donc qu'il y a eu un temps dans l'histoire où le plan de Dieu était voilé et que désormais ce plan est tout à fait dévoilé pour nous. Et Jésus est la clé pour comprendre le plan de Dieu. Et le secret dont il est question, Paul en a déjà parlé dans les deux premiers chapitres. Et pourtant, comme pour se répéter, pour insister là-dessus, il le résume encore ici au verset 6. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. Il fallait comprendre cela. Cette révélation de Dieu était indispensable pour comprendre que les privilèges qui étaient accordés aux Juifs, parce qu'ils étaient le peuple que Dieu avait choisi, étaient aussi pour les non-Juifs, pour les gens des autres nations. Il fallait comprendre cela. Il fallait comprendre que Dieu aussi avait choisi des gens des autres nations. Il était indispensable, d'autant plus pour Paul, de comprendre cela, puisque lui a été appelé à l'annoncer aux non-juifs. Et en quoi cette réalité qu'on est en train d'évoquer, en quoi cette réalité était-elle voilée pour les gens d'autrefois ? Après tout, les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé que des non-israélites adoreraient un jour le Dieu d'Israël. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ces versets. Le prophète Ésaïe, au chapitre 2, verset 2, dit « Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. » Nous lisons chez Sophonie, au chapitre 3, verset 9, « Puis je transformerai les lèvres de gens d'autres peuples, et je les rendrai purs, pour qu'ils invoquent l'Éternel, et qu'ils le servent tous d'un commun accord. » Et puis encore, cette prophétie de Zacharie, au chapitre 8, verset 23. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, 10 hommes de tous les peuples, parlant différentes langues, s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement, en déclarant « Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Donc, lorsque nous lisons ces prophéties, eh bien, effectivement, Dieu avait déjà annoncé des choses concernant les non-juifs. Mais alors, où se trouve la nouveauté ? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau ? Qu'est-ce qui a été voilé et qui a été dévoilé ? Après tout, certains ont même interprété ces textes que je viens de lire comme l'annonce que les païens allaient embrasser la religion juive. Et c'est vrai que ça a été le cas. Il y a eu des non-juifs qui sont devenus juifs. Mais la nouveauté qui s'éclaire avec la venue de Jésus, la nouveauté qui s'éclaire avec l'évangile qui est proclamé par les apôtres, c'est que juifs et non-juifs sont sur un pied d'égalité. Juifs et non-juifs sont désormais en Christ sur un pied d'égalité. un même héritage, un même corps, une même promesse. C'est donc ça que Dieu préparait de toute éternité. La création de l'Église, la création d'une nouvelle humanité en Christ, qui comprend des gens de tous les peuples. C'est donc ça que Dieu préparait. C'est tellement inattendu et tellement merveilleux à la fois que Paul revient encore une fois là-dessus. En Christ, il n'y a pas deux groupes, mais un seul. C'est ce qu'est l'Église, telle que Dieu la veut. Unie, réconciliée grâce à Christ. Si ce texte, si cette parenthèse de Paul est dans la Bible, c'est que Dieu veut que nous en ayons connaissance. Ce n'est pas en fait juste une parenthèse. Dieu veut que nous ayons connaissance du secret de son plan, désormais dévoilé depuis la venue de Jésus. Ce secret qui a été confié aux apôtres qui l'ont ensuite transmis à l'Église. Et comme nous nous sentons tout petits face au plan que Dieu a réalisé par Jésus-Christ. Sans l'événement de la mort de Jésus pour nos péchés, sans l'événement de sa résurrection, sans son ascension auprès du Père, sans l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte, il n'y aurait pas d'Église. Nous ne serions pas ici en train de l'adorer et d'être à l'écoute de sa parole. Le secret de son plan qui est aujourd'hui clair pour nous, c'est que nous obtenons par Jésus le privilège de faire partie du peuple de Dieu. Est-ce que de nouveau, nous mesurons le privilège que c'est ? Je l'ai dit la semaine dernière, si nous devions imaginer notre vie à une époque antérieure, avant la venue de Jésus, nous aurions été tellement loin de la réalité que nous vivons aujourd'hui dans l'Église. Dieu a très bien planifié les choses. Et le professeur Dominique Anger, dans son commentaire justement sur la lettre aux Éphésiens, rend grâce à Dieu de la manière suivante, et je reprends juste sa formulation. « Merci Père de m'avoir fait naître entre les deux venues de Christ, à un endroit où j'ai eu accès à l'Évangile. » Nous devons nous rendre compte de cela. Et d'ailleurs, nous pouvons prier comme ça, nous tous. « Merci Père de m'avoir placé à cette époque entre les deux venues de Jésus, entre sa première venue et son retour. » Pour que je puisse avoir accès à l'Évangile et que je puisse être là aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que l'Église est née un jour sur terre, au jour de la Pentecôte. Ce n'est pas par hasard que des non-juifs ont commencé à croire en Jésus, le Messie d'Israël. Et ta présence dans l'Église n'est pas non plus un hasard. Dieu avait planifié tout ça. C'était un élément voilé autrefois et tout à fait clair aujourd'hui. Et avant de poursuivre, prenons juste quelques instants maintenant pour réfléchir encore là-dessus, pour en prendre conscience de nouveau et pour prier dans notre cœur, que nous puissions juste prendre quelques instants pour ça. Nous savons que Dieu a inclus l'Église dans son plan éternel parce qu'au moment voulu, il a fait connaître le secret de son plan. Premièrement aux apôtres, ensuite aux églises de l'époque et aujourd'hui à nous. Nous savons aussi que Dieu a inclus l'Église dans son plan éternel parce que c'est par elle qu'il a voulu faire connaître sa sagesse. C'est par l'Église que Dieu a voulu montrer sa sagesse. Petite question de culture générale. Vous avez sans doute déjà entendu parler des 7 merveilles du monde. Vous pouvez me confirmer ? Les 7 merveilles du monde, ces ouvrages de construction tout à fait remarquables, en tout cas selon certains. Et en réalité, aujourd'hui, nous avons deux listes de 7 merveilles. Celle qui a été établie dans l'Antiquité et celle qui est plus récente. Dans la première liste, est-ce que vous pouvez me citer une de ces merveilles de l'Antiquité ? Le phare d'Alexandrie. Alors, je regarde juste dans mes notes si c'est ça. Oui. Ah oui, la pyramide de Khéops. Encore un autre exemple. Oui, les jardins suspendus de Babylone. Et on peut également citer, mais ça c'est juste par... On peut aussi citer, justement à Éphèse. À Éphèse se trouvait aussi une des merveilles, le temple d'Artémis. Bon, c'est juste, voilà, pour notre culture générale. Dans la deuxième liste, celle des merveilles qui ont été récemment établies, est-ce que vous pourriez me citer un exemple ? Alors, pas la Tour Eiffel, mais la muraille de Chine, effectivement. Autre merveille ? Le colosse de Rhodes, ça c'était dans la première liste. Eh bien, figurez-vous qu'il y a, entre autres, la statue qui se trouve à Rio de Janeiro, la statue du Christ Rédempteur, celui qui fait comme ça. Mais aucune de ces listes ne mentionne l'Église. L'Église qui appartient à Jésus-Christ. Aucune de ces deux listes ne mentionne l'Église. Mais est-ce que l'Église n'est pas une merveille ? Et pourtant, nous avons vu la semaine dernière que la communauté chrétienne forme un temple. Et c'est pour le développement de cette Église que Paul a œuvré durant sa vie. Pas absolument toute sa vie, puisqu'il n'a pas toujours été chrétien, mais pendant une bonne partie de sa vie. C'est pour le développement de cette merveille que Paul a œuvré. Et je vous propose de voir la suite de notre texte. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Paul s'estime tout petit, il n'oublie pas qui il était auparavant. Le persécuteur des chrétiens. Il n'oublie pas qui il était, il n'oublie pas son passé. Mais dans sa grâce, Jésus s'est révélé à lui directement sur la route de Damas. Et Jésus l'a appelé à être son apôtre, son envoyé auprès des non-juifs. Comme Dieu a été bon envers Paul, et il s'en souvient, il le sait. Alors, bien sûr, voilà pourquoi il dit au verset 8, « Moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint. » C'est pourquoi aussi, tout au long de notre texte, au verset 2, au verset 7, au verset 8, nous avons le mot « grâce » qui revient à chaque fois lorsque Paul parle de son ministère. Il décrit son ministère comme un don et un appel qu'il n'a pas mérité. Une grâce. Et selon cette grâce, la mission de Paul était d'annoncer et de mettre en lumière comment Dieu réalisait son plan. Et nous avons parlé tout à l'heure du secret de son plan. Et donc, ça fait partie du ministère de Paul de pouvoir dévoiler cela, de pouvoir expliquer cela, de prêcher cela. Le Créateur de toutes choses, comme c'est mentionné au verset 9. Le Créateur de toutes choses a minutieusement choisi le moment où il dévoilerait avec clarté le sens de son plan éternel, la signification des événements que sont la mort et la résurrection de Christ. Et Dieu nous a éclairés par son esprit. Et nous comprenons que tout cela a un rapport avec les êtres humains pécheurs que nous sommes. Nous comprenons que tout cela a en fait un rapport avec l'Église. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi est-il ressuscité? Tout cela a un rapport avec l'Église. Comme le disait Paul à un autre moment, c'est l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Vous vous rendez compte du prix élevé pour que l'Église puisse exister? Un prix si élevé. Dieu s'est acquis cette Église au prix du sang de Jésus-Christ. Mais on peut aller encore un peu plus loin. Et c'est le verset 10 qui est peut-être le plus surprenant. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Alors peut-être qu'il faut lire deux fois cette phrase pour se rendre compte de ce que Dieu est en train de faire, enfin de ce que Dieu a déjà fait et de ce qu'il continue à faire. Les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. C'est là qu'il est question de la sagesse de Dieu. Tout son plan a été préparé et réalisé avec sagesse. Et le plus incroyable pour nous, c'est que cette sagesse, Dieu l'a fait connaître par le moyen de l'Église. Et à qui? À qui fait-il connaître sa sagesse? Aux autorités et aux puissances dans le monde céleste. Certains pensent que cela désigne à la fois des anges de Dieu et des démons. Ce sont des êtres célestes. Mais bien sûr, leur réaction serait totalement différente. Et puis en fait, dans tous les cas, dans ce monde céleste qui nous est invisible, les êtres qui s'y trouvent ne peuvent qu'admettre combien Dieu est sage, en regardant seulement l'Église sur terre. D'un point de vue humain, cela ressemble à de la folie. Réunir dans l'Église des hommes et des femmes de tout horizon, de tout peuple, et faire en sorte qu'ils s'entendent bien et qu'ils s'aiment comme des frères et sœurs. Voilà un projet un peu fou. Et à cause de ce qui a pu se passer dans l'histoire, qui pourrait imaginer que dans l'Église, nous puissions trouver côte à côte des blancs et des noirs, des Israéliens et des Palestiniens, des Turcs et des Arméniens, des anciens nazis et des Juifs. Et aujourd'hui, nous pourrions ajouter des Ukrainiens et des Russes. Qui pourrait imaginer que dans l'Église, nous puissions trouver côte à côte de tels groupes? C'est de la folie. D'un point de vue humain, cela ressemble à de la folie de réunir ensemble dans l'Église de tels groupes qui se détestent. Mais quand Dieu le fait et qu'en plus ça marche, les anges sont en admiration devant la sagesse de Dieu. Et même sans aller jusqu'à évoquer ces différents groupes, si nous pensons juste à notre communauté à Saint-Maur, nous voyons une diversité de cultures, du côté sinophone comme du côté francophone. Nous voyons des pêcheurs, parce que c'est ce que nous sommes, nous voyons des pêcheurs qui se retrouvent dimanche après dimanche, et même en semaine. Il arrive qu'il y ait des incompréhensions et des désaccords entre nous. Et pourtant, l'Église de Saint-Maur est toujours là, et va même fêter ses 20 ans. En voyant notre histoire, les êtres célestes ne peuvent que se dire combien Dieu est sage, parce que cette communauté fonctionne depuis 20 ans. Combien Dieu est sage? Comment a-t-il fait pour réussir ça? parce qu'il est tellement sage. Il sait ce qu'il fait. Il sait, lorsqu'il nous regroupe, ce qu'il est en train de faire. Comment est-ce possible que des pécheurs puissent continuer à rester ensemble pendant 20 ans ? Et même que d'autres les rejoignent. Tout simplement parce que ces hommes et ces femmes ont compris leur état de pécheur par le moyen de l'Évangile. Parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus pour leur salut. Parce qu'ils sont continuellement transformés par le Saint-Esprit. Et qu'ils reconnaissent Dieu pour Père, étant membres de la même famille. Et l'apôtre Paul écrit au verset 11, « Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. » 20 ans, c'est peu de choses au regard de l'éternité. Et d'autres communautés ont une histoire plus longue que la nôtre. Mais par Jésus, notre Seigneur, Dieu a réalisé un plan qu'il avait fixé de toute éternité. Et nous en faisons partie en tant qu'Église. Et si les êtres célestes peuvent percevoir la sagesse de Dieu par le moyen de l'Église, cela ne change-t-il pas notre regard sur l'Église ? Est-ce que cela ne change-t-il pas notre façon de voir l'Église ? Si c'est par elle que Dieu montre sa sagesse. Est-ce que cela ne change pas notre regard sur notre engagement auprès de nos frères et sœurs ? Cela ne change-t-il pas notre regard sur l'importance d'approfondir nos relations les uns avec les autres ? Dans sa sagesse, Dieu nous a réunis. Et plus je saisis cela, plus je comprends cela, plus cela m'encourage à vous aimer davantage. Plus cela m'encourage à être attaché à l'Église. Plus cela m'encourage à chérir les moments que nous passons ensemble. Plus cela m'encourage à chérir nos temps de prière, de culte, parce que nous sommes là pour Dieu. En comprenant de mieux en mieux ce qu'est l'Église aux yeux de Dieu, cela m'encourage à vous aimer davantage. Parce que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, Dieu nous accueille. Et nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Et nous le faisons cet après-midi. Nous venons devant lui avec confiance, par Jésus. Et dans les prochaines semaines où nous continuerons l'étude de notre lettre, de cette lettre de Paul, nous entendrons des exhortations pratiques pour la vie de l'Église. Et si nous comprenons que l'Église fait partie du plan éternel de Dieu, si nous comprenons combien l'Église est importante à ses yeux, nous nous empresserons de mettre en pratique tout ce que Dieu nous dit par l'apôtre Paul. Nous nous empresserons de mettre en pratique les chapitres suivants d'Éphésiens. Parce que nous comprenons à quel point l'Église est une merveille à ses yeux. Et de cette manière-là, Dieu sera glorifié. Et sa sagesse sera une fois de plus dévoilée. L'Église existe pour glorifier Dieu sur terre et dans le monde céleste. Quand nous pensons à cela, je crois que nous ne nous réunirons plus avec le même état d'esprit. Et malgré une persécution grandissante que Portes Ouvertes a encore récemment dévoilée, l'Église continuera d'exister sur terre, car elle fait partie du plan éternel de Dieu. Et c'est ce qui doit nous encourager pour l'avenir. L'Église continuera d'exister. Et combien Dieu a été sage de réunir sous un seul chef, Christ, des gens de toutes les nations. Les non-juifs que nous sommes ont une place de choix dans le plan de Dieu, notre Créateur. Et c'est à Christ que nous le devons. Nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ça. Et par sa grâce, soyons l'Église telle que Dieu la veut. Une Église que les anges observent et que le monde autour de nous observe. Et aux uns, Dieu veut faire connaître sa sagesse, et aux autres, Dieu veut faire connaître Jésus-Christ par l'annonce de l'Évangile. Amen.